Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Jérémie, au chapitre 31. Jérémie 31, et nous allons lire les versets 31 à 35. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis, par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître, déclaration du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, déclaration du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, déclaration du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle le Seigneur, celui qui donne le soleil pour éclairer le jour, les prescriptions de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, celui qui agite la mer et fait gronder ses flots, lui dont le nom est le Seigneur des armées. Amen.
Vous savez, chers frères et sœurs, et nous savons qu'ici ou là dans le monde, des alliances de toutes sortes et dans tous les domaines se nouent pour aboutir à des contrats mirobolants. Exemple, par rapport à la diapo que vous voyez, le 21 mai dernier à Shanghai, la Chine et la Russie ont conclu un aboutissement d'alliance par la signature d'un contrat qui va les lier pendant 30 ans pour l'approvisionnement en gaz, en gaz de la Chine par la Russie. Et devinez le montant du contrat. Alors, on va quand même faire descendre. Il y a tellement de zéros, regardez. Le montant du contrat est... Est-ce que vous pouvez me dire ce chiffre-là? Pardon? 400 milliards de dollars. Après, je ne sais plus à quoi correspondent tous ces zéros. Je ne sais plus ce qu'on peut acheter avec tous ces zéros, mais pendant 30 ans, voilà deux pays qui se sont liés. Vous savez, dans le milieu économique et politique, on appelle ça le contrat du siècle, ou alors le méga contrat. Alors, je vous laisse réfléchir un instant aux conséquences positives d'un tel contrat pour l'une et l'autre partie. Vous savez qu'en termes d'alliance et de contrat, il y a encore mieux que cela. Et c'est sur cette alliance que je voudrais avoir toute votre attention ce matin. Et cette alliance que j'appellerai, est-ce qu'on peut envoyer donc l'autre diapo? Voilà, un contrat en or. Il a été signé il y a plus de 2000 ans, mais avec du sang, par l'un des partenaires, à savoir Jésus-Christ, qui a satisfait à toutes les clauses du contrat. Alors avant, j'aimerais que nous définissions, si vous voulez bien, le mot « alliance » pour nous permettre de bien comprendre ce qui va être dit. Ça va être un petit peu compliqué ce matin, mais quelquefois, il faut, surtout autour des vacances comme cela, c'est bien de rafraîchir un peu les neurones et de réfléchir. Alors ce matin, nous allons pas mal aller dans les textes de la parole. Alors, les définitions du mot alliance. Dans le domaine des affaires, une alliance se fait suite à des tractations, des accords, des pactes et des contrats sur différents points qui impliquent des droits et des devoirs réciproques entre les deux parties, et que chacune s'engage à respecter d'après donc les conditions définies. On est d'accord avec ça? Bien. Mais l'alliance peut être aussi autre chose. On peut trouver un lien sacré entre deux personnes pour rester tout simplement en paix, comme dans le cas d'Abraham et d'Abimélec. Vous savez, au sujet donc du puits, vous vous souvenez que les serviteurs d'Abimélec étaient venus et s'étaient emparés du puits. Et donc, quand on lit au Genèse chapitre 21, verset 27, il est dit « Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimélec et ils firent tous deux alliance. » Et dans le cas donc, il y a encore un autre exemple pour aussi, c'est le cas donc de David et Jonathan. Le texte dans 1 Samuel 23, 18 dit qu'ils conclurent tous les deux une alliance devant le Seigneur, ce qui correspond à un pacte d'amitié entre Jonathan et David. Une alliance peut être aussi entre deux familles, fondée sur un ou plusieurs mariages et qui fait entrer des personnes et leurs descendants dans la parenté d'une autre famille. Pratique que l'on trouvait fréquemment jusqu'au XXe siècle, dans certaines parties de l'Europe, pour maintenir un certain rang dans l'aristocratie ou un statut dans la bourgeoisie. On trouve encore des alliances entre deux groupes ethniques qui désirent vivre en paix, tout en se côtoyant, en s'entraidant, et c'est basé sur des traités de paix. Il existe aussi des alliances entre, surtout dans les temps passés, entre les suzerains et des vassaux. Dans ce cas, c'est toujours le plus puissant qui dicte les conditions. Et il existe un cas comme ça dans la Bible, où on voit au moment de la déportation, dans Ézéchiel 17, versets 12 et 13, on voit que le roi de Babylone, qui était venu à Jérusalem, il va prendre les rois, il va prendre les chefs, il va les déporter, il va leur faire signer pratiquement une alliance avec lui, disant qu'il devrait respecter donc, les lois donc, du royaume. Et c'était une façon pour lui d'être en tranquillité et surtout de ne pas permettre au pays, à Israël, de se développer. Alors, dans la Bible, le mot « alliance » prend une toute autre dimension, un tout autre sens. Le mot « alliance » exprime toujours la grâce que Dieu déploie en faveur des humains et nous fait entrer immédiatement dans l'histoire du salut. Voilà le sens premier donc, d'une alliance de la Bible. Et c'est toujours Dieu qui en est à l'origine, qui en a l'initiative. Alors cela pourrait s'apparenter un petit peu à l'alliance entre les suzerains et les vassaux. Sauf que ce n'est pas le même état d'esprit, bien entendu. Alors c'est en général une ou des dispositions aussi dans lesquelles Dieu se révèle, dans lesquelles il révèle des traits de son caractère et demande aux hommes tout simplement de l'aimer, de croire en lui, de respecter les lois qu'il donne. Et ces lois, généralement ces alliances, engagent les hommes avec Dieu. Alors si vous voulez bien, je voudrais bien faire avec vous une très courte historicité des alliances de Dieu avec les hommes. Alors je voudrais vous inviter à faire avec moi un bref cheminement. Je voulais vous poser une question d'abord. Combien d'alliances qu'on trouve dans la Bible, d'alliances importantes que Dieu a signées avec les hommes, il y en a combien? Est-ce que vous le savez? Voilà, donc en fait, il n'y a que 4 alliances, pas plus. 4 alliances dans la Bible. Et une première que certains théologiens ne tiennent pas comme étant une alliance, que je considère comme étant une et dont nous allons parler. Est-ce qu'on peut envoyer? Voilà, dans la première alliance, quand Dieu a créé nos premiers parents et qu'il les a placés dans le jardin d'Éden, il leur a donné un seul et simple commandement par lequel il fit une alliance et il dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Nous trouvons ça dans Genèse 2. Dieu établit Adam et sa compagne dans le jardin et il va faire des promesses. Regardez, on l'a affiché, il va leur promettre la vie éternelle. Donc c'est la partie qui revient à Dieu. Il va aussi leur promettre des bénédictions. Alors, Dieu promet la vie éternelle et la bénédiction à l'humanité représentée par Adam en tant que chef du genre humain. En contrepartie, c'est-à-dire la deuxième partie donc de l'alliance, tout simplement, Adam et Ève devraient obéir. Ce sont les deux parties donc de l'alliance. C'est-à-dire ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aussi longtemps qu'ils vont demeurer dans l'obéissance au commandement qui leur a été fait, la vie sera la récompense et l'obéissance. La récompense de l'obéissance et la mort sera le châtiment et la de la désobéissance. Dès le commencement, il y eut une base établie par Dieu, fixant les conditions pour une relation durable entre lui et ses créatures. C'est très important que nous comprenions tout cela. Puis Dieu, dans son histoire avec les hommes, va encore établir trois autres alliances dans des circonstances complètement différentes. Est-ce que vous connaissez la deuxième alliance? C'est avec Noé, bien entendu. Ah ben oui. Alors, il faudrait attendre que je demande d'envoyer la diapo. Alors, nous connaissons les circonstances de l'établissement de cette alliance. Pour ceux qui ne se souviennent pas, je vous invite à jeter un petit coup d'œil dans Genèse 6, chez vous, tranquillement. Alors, le texte nous dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. C'est-à-dire que Dieu eut un très grand chagrin. Un profond chagrin. Parce que depuis Adam, les hommes étaient devenus tellement mauvais que Dieu n'a eu aucune autre alternative que de prendre la décision d'exterminer toute forme de vie, alors qu'il venait de les créer. Alors toutefois, pour assurer la pérennité de la race humaine, il va décider d'épargner le seul homme juste qu'il trouva, c'est-à-dire Noé. Et c'est avec ce seul être que Dieu va faire la deuxième alliance que nous trouvons établie donc sur 8 versets dans le chapitre 9 de la Genèse. Je vais vous laisser lire ça chez vous, tranquillement. Vous pouvez prendre des notes. Là aussi, comme pour Adam, Dieu promet des choses. Hein, il promet donc de se souvenir, voilà, se souvenir qu'il ne exterminera plus aucune chair par les eaux du déluge, et qu'il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Voilà donc les clauses de Dieu dans ce contrat avec l'homme. Alors par contre, il demande à Noé d'être fécond, de ne pas manger le sang des animaux, de ne pas tuer d'êtres humains et d'être obéissant. Et nous voyons une chose qui est très importante, c'est que ce contrat, dans ce contrat, il va y avoir un signe. Un signe, l'arc-en-ciel, que nous voyons encore aujourd'hui. Alors, maintenant, nous allons aborder, si vous voulez, est-ce que vous pouvez me dire quel serait l'autre? Ce serait avec Abraham. Merci. Avec Abraham, cette fois, Dieu va établir une alliance dont les termes occupent tous les chapitres 11 jusqu'à 25 de la Genèse. Au chapitre 11, 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de ton père. » Et nous connaissons donc, Dieu va lui faire une promesse. Et plus tard, Dieu va rétablir cette même alliance avec son petit-fils, Jacob, que nous pourrons trouver dans Genèse 28, et qui après va s'étendre sur les 12 tribus. Alors, quel genre de promesses trouvons-nous dans l'ensemble d'alliances que Dieu va faire avec Abraham? Il va y avoir trois types donc de promesses. Il va y avoir d'abord des promesses personnelles qui sont attachées donc à Abraham. Dieu promet de bénir Abraham et de faire de lui une bénédiction pour d'autres. Il va aussi lui promettre d'être connu, d'être grand, d'être populaire. Genèse 12, verset 2. Dieu va lui promettre une fécondité inouïe et une descendance innombrable. Tout ça, c'est un rapport personnellement avec lui. Dans le, par exemple, Genèse 13, il va lui dire « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas par lui qui sera ton héritier, » en parlant donc de son fils qui était né donc d'Agar, « Il lui dira que tu auras donc une postérité avec ton épouse. » Évidemment, nous connaissons toute l'histoire. L'histoire, ce n'est pas d'étudier chaque texte, c'est que je voudrais que nous passions donc un petit peu en revue comme ça les alliances que Dieu va faire. Alors, deuxième type donc d'alliance avec Abraham, ce sera une alliance où Dieu va faire des promesses nationales donc pour Israël. Dieu promet que les enfants d'Abraham deviendraient une grande nation. Il lui promet de leur accorder un pays que nous connaissons. Et on sait que Dieu va chasser des peuplades d'alentour pour pouvoir placer donc le peuple d'Israël. Il lui promet aussi de perpétuer cette même alliance avec ses descendants. Donc, on voit que Dieu, dans les promesses qu'il va faire à Abraham, dans cette alliance, il y a trois types donc de promesses. Et dernier type que nous allons trouver, Dieu va faire une promesse universelle à Abraham pour le monde entier. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est l'engagement de Dieu. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse 28, ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Tout ce que nous venons de dire concernant Abraham renferme les clauses de Dieu dans l'alliance. En contrepartie, on peut avancer. Merci. En contrepartie, ici aussi, Dieu souhaite que ceux avec qui cette alliance est établie, il souhaite qu'ils soient intègres, qu'ils croient en lui sur la base donc de la foi. Et on va voir qu'il y a aussi un signe qui va s'attacher à cette alliance. Ce sera la circoncision. On va lire au verset, par exemple, Genèse 17. « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Donc voilà les termes de l'alliance avec Abraham. La première partie, la partie qui concerne Dieu, a trois aspects. Et on voit, Dieu demande simplement à Abraham de continuer à être ce qu'il est, c'est-à-dire un homme de foi, d'être intègre et d'être obéissant. La dernière alliance, bien entendu, tout le monde sait, je suppose, c'est avec Moïse, bien entendu. Merci. La quatrième alliance connue dans la Bible sera établie donc avec Moïse. Lorsque Dieu se manifestera dans le buisson ardent, il va se présenter à lui comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire un Dieu de filiation, un Dieu de relation, un Dieu qui s'attache aux hommes, capable de venir à leur rencontre au milieu de leur histoire. Il ne viendra pas comme une de ces nombreuses divinités égyptiennes à qui on invente une histoire plus ou moins grotesque et à qui on prête des pouvoirs magiques qui sortent tout droit de l'imagination des hommes. Cette fois, par Moïse, Dieu va pendant 40 jours et 40 nuits sans arrêt, il va établir une alliance avec tout le peuple d'Israël. Ce ne sera plus avec un homme, une personne seule, ni une famille. Ce sera un homme et tout un peuple. Avec tout le peuple d'Israël, il va souhaiter placer ce peuple-là au cœur de l'histoire de l'humanité. Pas au détriment de d'autres peuples, mais pour en faire, en quelque part, un réservoir de prêtres. Et les mettre en place, et mettre en place avec eux un projet de salut. Alors, et pour cela, Dieu va souhaiter les qualifier les sanctifier et les mandater pour cette mission. Nous pouvons lire les termes de cette mission qui se trouvent dans Exode 19, versets 5 et 6. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous allons pouvoir lire les termes donc de l'alliance que Dieu veut faire avec le peuple. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Alors, qu'est-ce que nous trouvons dans cette alliance ? D'un côté, Dieu s'engage à faire de ce peuple-là les dépositaires de la charte morale universelle pour tous les temps, c'est-à-dire dépositaires des 10 commandements, ainsi que du livre de l'Alliance, c'est-à-dire le livre contenant toutes les ordonnances et les règles de vie. Et aussi, Dieu leur demande, il y a un signe qui va s'attacher à cette alliance. Dieu va leur demander d'observer le sabbat, disant que cela devient un signe visible, un signe perpétuel d'appartenance à Dieu. Dans Exode 31, on lit, « Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, et le 7e jour, il a cessé donc son œuvre et il s'est reposé. » Parce qu'en Moïse et avec le peuple, Dieu réalise, il continue quelque part la réalisation de sa promesse avec Abraham. Donc, idem, il va par conséquent réclamer du peuple aussi quelque chose, une contrepartie. Rappelez-vous, on disait que dans une alliance, dans un contrat, il y a toujours deux parties. Donc Dieu va par conséquent réclamer au peuple la fidélité aux paroles de cette alliance, leur demandant de le reconnaître lui comme étant le Dieu unique, leur Dieu, de lui appartenir entièrement et d'observer fidèlement ses lois et ses ordonnances, en disant « si vous écoutez ma voix et si vous gardez ». Voilà ce qui revenait au peuple de faire tout simplement. Fidélité aux paroles de l'Alliance. Ce n'est pas grand-chose, hein? Vous avez vu? Toutes les fois, la clause qui concerne Dieu est toujours plus remplie, plus complète. Et Dieu demande peu de choses à l'homme finalement, n'est-ce pas? Alors, que trouvons-nous dans cette Alliance? Dieu s'engageait envers Israël à être son Dieu, à le bénir, à le protéger, à le secourir et faire de lui une nation qui dira sa gloire parmi les autres nations. Donc, il va faire d'eux des dépositaires, comme on a dit, donc, de cette parole. Grande responsabilité. Faire traverser les siècles la loi morale de Dieu. Ce n'est pas rien. Il y a aussi les prophètes. Les prophètes vont aussi avoir un rôle très important dans la transmission et le rappel de ces alliances au travers les siècles. À chaque étape dans l'avancée de sa relation avec son peuple, Dieu va adapter les modalités des alliances en fonction des contextes, contexte historique du moment et aussi en fonction de la maturation spirituelle du peuple. Mais malgré toutes les dispositions qu'il prendra pour faire comprendre que chaque alliance a marqué une étape, que chaque alliance depuis Adam a marqué une progression, un peu comme un maillon dans une chaîne vers le dessein qu'il s'est fixé pour toute l'humanité et dans lequel le peuple d'Israël, appelé peuple de l'alliance, a été placé au centre. Alors nous savons qu'elles vont presque toutes se solder par des échecs. Toutes ces alliances vont se solder par des échecs. En parcourant ce livre, nous apprenons qu'il en était advenu insupportable pour Dieu. Insupportable de vivre dans ces conditions. Écoutons quelques... On peut regarder, si vous voulez, dans Juge 2. Lisons dans Juge 2, le verset 12, ce qui est dit dans Juge 2, verset 12. Est-ce que quelqu'un pourrait le lire à haute voix? Soyez gentils. Alors, ces deux versets vont nous dire, enfin, il y en a plein, mais j'en ai pris que deux. Ces deux versets vont nous dire ce que toutes les bonnes dispositions de Dieu donc, sont devenues.
Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés.
Vous vous rendez compte? Depuis l'aurore de l'humanité, Dieu fait des alliances avec des hommes. Lisons notre texte dans 2 Chroniques 24, verset 18. Est-ce que quelqu'un veut bien lire aussi à haute voix? Vous serez gentil. Merci.
Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient rendus ainsi coupables.
On est dans nos petits souliers là. Hein? Oui. Au terme de ces multiples alliances, Dieu a été malheureusement obligé de faire un constat d'échec. Vous imaginez Dieu qui fait un constat d'échec. Un constat d'échec dans sa tentative de conquête du cœur de l'homme. Avons-nous conscience que Dieu a vécu au cœur de la souffrance? C'est Ésaïe et Jérémie qui vont en être le rapporteur. Lisons dans Ésaïe 1, verset 2. Je pourrais demander aussi là à quelqu'un donc, de bien vouloir lire à haute voix. Très gentil. Ésaïe chapitre 1er, le verset 2. Et ça, c'est Dieu qui a inspiré à Ésaïe les propos que nous allons lire. Ésaïe 1, verset 2.
Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi.
C'est le constat de Dieu. Lisons aussi dans Jérémie, le chapitre 2, le verset 11, 12 et 13.
Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoiqu'ils ne soient pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau.
Voilà le constat de Dieu. Ça me fend le cœur, moi. Le Dieu de l'univers, le grand Dieu qui a créé l'infiniment grand, comme l'infiniment petit, à peine perceptible par l'œil, ce Dieu de l'univers, le grand Dieu, reçoit un déconvenu de la part de l'homme. Je vais vous lire un dernier texte dans Ésaïe 5, verset 4. Je vais le lire, si vous permettez. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas faite pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bon vin, elle n'en a produit que du mauvais? Ça, c'est un cri de Dieu. C'est une phrase qui sonne comme le bilan d'une relation désastreuse. C'est le bilan de la première alliance de Dieu, dans laquelle Dieu s'engageait envers un homme, une famille, un petit groupe, puis un peuple. Il s'engageait à être leur Dieu, à les bénir, les protéger, les rendre féconds, les secourir et faire d'eux une nation qui le glorifierait parmi d'autres nations. Dieu va subir un déconvenu de la part des hommes. Je ne sais pas si on saisit le sens. celui qui a créé les arbres, les fruits, les mers, l'océan, la stratosphère, reçoit une déconvenue, tout simplement. Celui qui jour après jour pourvoit à nos besoins, celui qui jour après jour nous donne la force de nous lever pour aller travailler, qui nous avons des biens à profusion, même plus qu'il n'en faudrait. Nos réfrigérateurs regorgent. Nous nous marions avec qui nous voulons, plus ou moins, nous avons de beaux enfants. Nous profitons de la vie, nous jouissons de nos richesses. Et ce Dieu qui permet tout cela est expulsé, littéralement. Alors, vous savez, malgré cela, Dieu va demeurer ce qu'il est, à savoir un Dieu fidèle dans ses sentiments, dans ses principes, dans son amour et à sa parole. Et parce qu'il est aussi un Dieu d'espérance, il changera de stratégie. Il va changer, il va prendre l'homme autrement. Il va changer de stratégie pour se faire aimer des hommes, s'il te plaît, moi. C'est moi qui t'ai donné la vie. Il nous supplie, ce Dieu. Il nous supplie de l'aimer. Alors, il va changer de stratégie et tout recommencer à nouveau. Et il va donner une nouvelle chance à l'humanité. Écoutons ce que dit Jérémie 31. Est-ce que quelqu'un... Pardon, d'abord Isaïe dit, Dieu a inspiré Isaïe de dire, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu comptes pour moi. Tu n'es pas juste un humain là parmi tous les autres. Non, tu comptes, je sais comment tu t'appelles et je sais comment tu es venu au monde. Je connais ton père et ta mère et je sais même comment ça s'est passé en toi. Je peux te dire, bon, j'ai voulu. Bien. Tu as du prix à mes yeux. » Et Jérémie 31 nous dit, « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. » Alors c'est pourquoi je te conserve malgré tout, malgré ton ingratitude, malgré ce que tu es, malgré ta présomption, malgré ce que tu crois être et que tu n'es pas en réalité. Je te conserve quand même ma bonté. Et je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Alors ces versets, chers frères et sœurs, m'interpellent sur plusieurs des caractéristiques de Dieu, telles que son immense bonté, m'interpellent sur sa patience, m'interpellent sur sa compréhension, sur son amour de la race humaine, que je ne comprends pas. Et sa détermination de nous sauver alors que nous sommes si indignes. Vous êtes d'accord? Oui. Alors c'est Esaïe qui l'exprime le mieux dans ces termes. Il dit, quand les montagnes, voilà, continuez, s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Signé, dit l'Éternel qui a compassion. On va lire ça. Ésaïe 54, verset 10. On ne peut pas juste le citer. Le lire pour savourer les mots. Je vous invite à prendre Ésaïe 54, verset 10.
Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi.
Voilà, mais ces textes-là, ces textes que nous venons de lire, ces brèves historicités des alliances, très brèves, que nous venons de faire, m'interpellent aussi, moi, encore, sur l'impuissance qu'a l'homme à satisfaire à la volonté de Dieu. Alors que nous savons quelle est la base. Elle est la base de toute alliance. Dans toute la Bible, l'explication la plus explicite et la plus satisfaisante est donnée par Paul dans Romains 7 que nous connaissons. On peut citer ça de mémoire, j'espère. Qu'est-ce qu'il dit Paul dans Romains 7? et qui exprime notre incapacité. Il dit, verset 18, Romains 7, 18, il dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » J'ai la volonté, j'ai bien envie, parce que chaque matin je me lève avec de très bonnes dispositions, je prends plein de bonnes décisions. Mais à midi, quelles sont devenues ces décisions? Et la plus forte raison du soir, il n'y a plus rien. Il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19, il dit, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 22. L'homme ne peut pas satisfaire aux alliances de Dieu parce qu'il y a une loi implacable qui s'applique en lui. On devient la chose du péché. C'est ce qu'il dit. Il y a une autre loi qui s'applique. Vous savez, c'est, si vous prenez un crayon, vous le lâchez, il y a une loi qui s'applique. C'est la loi de la gravité. Le péché, c'en est une dans notre chair, il dit. Alors, c'est une réelle déchirure pour Paul. Et qui va lui arracher un cri de détresse que nous trouvons au verset 24. Regardons le verset 24 et lisons ce verset 24. Misérable que je suis, mais qui va m'en libérer de cette affaire? Je n'ai pas envie de faire le mal et je le fais malgré moi. Il est en train de nous dire qu'il n'y a aucune issue humainement possible. C'est ce qu'il est en train de nous dire, oui ou non? Aucune issue possible. Alors, vous savez, chers frères et sœurs, là, nous sommes au cœur de la problématique humaine. Nous sommes incapables de changer cela. Il y a plein de textes qui l'affirment. Job, chapitre 14, verset 4, il dit, comment un être souillé sortira-t-il, d'un être souillé sortira-t-il un autre pur? Il ne peut en sortir aucun. Une autre constatation, le psaume 51, verset 7, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu. C'est-à-dire, toutes les fibres de mon corps sont pétries dans le péché. Et aucune démarche humaine ne peut changer ça, aucune. Romains 8, verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, se révolte contre Dieu. Oui, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et d'ailleurs, elle ne le peut même pas. Elle n'en a pas la capacité. Alors, Paul reconnaît que nous avons besoin d'une aide extérieure pour nous en sortir. On est d'accord? Il dit, mais qui me délivrera? Alors, c'est sur cette constatation, c'est sur cette base-là que Dieu va contracter avec l'homme une nouvelle alliance. Parce qu'il ne s'en sortira pas. Alors, Dieu vient à notre secours, encore une fois. Une nouvelle alliance avec les hommes par un contrat différent de la première alliance. Et cette nouvelle alliance est mise en place par Jésus. Et vous savez à quel moment qu'elle est inaugurée, cette nouvelle alliance? J'espère qu'on connaît bien notre Bible. C'est Jésus qui va mettre cette nouvelle alliance en place. Et à quel moment il va la mettre en place? Personne ne suggérait moi... Pardon? Ah non. Non. Pardon? À la Pâque, lors de la scène. Au moment de la scène, le moment de la scène rend caduque ce qui a demeuré pendant des siècles, c'est-à-dire la Pâque juive. Vous savez, pendant la Pâque juive, regardez l'ancienne langue, il y avait des ingrédients, il y avait un agneau rôti que l'on devait manger en entier. Il devait y avoir du pain sans levain et des herbes amères. Et le jour, en l'an 33, je crois, 1er avril, fin mars, 1er avril de l'an 33, Jésus, avec ses disciples, va inaugurer quelque chose. Les temps de Dieu vont passer à la nouvelle alliance. Il va le dire, Jésus. Jésus va, en faisant ce geste de prendre le pain, vous voyez bien, pour la nouvelle alliance, il n'y a pas d'agneau, n'est-ce pas? Pour quelle raison? C'est lui l'agneau. L'agneau est là, le voilà, l'agneau. L'agneau qu'ils ont mangé pendant des siècles, le voilà. Voilà. Alors on va manger seulement le pain qui va être le symbole de son corps, parce qu'on ne va pas le dévorer, il est là. Et puis, moi, je ne suis pas l'être humain, on est d'accord. Bien. Alors, par contre, il va être sacrifié. Il va être sacrifié sur la croix. Mais on boira le vin, quand même. Le jour de la scène, au moment où il va inaugurer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire les anciennes pratiques ne se feront plus. Ça a duré pendant des siècles, ça ne se fera plus. À ce moment-là, parce qu'il ne faut pas oublier, permettez-moi de faire un petit retour en arrière, l'ancienne pratique de la Pâque permettait de garder en souvenir trois choses essentielles. C'était quoi? Premièrement, c'était de se souvenir que le peuple de Dieu, les Hébreux, avait été épargné de la mort, alors que l'ange de la mort frappait l'Égypte. Deuxième chose dont ils devaient se souvenir, c'était leur départ précipité. Et la troisième chose, bien sûr, leur libération, de l'esclavage. Donc vous pensez bien qu'ils tenaient à la Pâque. Alors Jésus va changer ça. La nouvelle alliance était née, là, pendant donc la scène. C'était la réalisation d'Ézéchiel 36. Au moment de la scène, et qui dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes pratiques. » Alors que la première alliance, chers frères et sœurs, mettait l'emphase sur ce que l'homme devait faire dans ce contrat pour son salut, Dieu attendait que un certain nombre de choses soient faites. La deuxième alliance va mettre l'emphase sur la puissance phénoménale que Dieu est capable de déployer pour nous dire son amour. Oui ou non? Bien. Alors maintenant, je voulais juste vous poser une question. Avons-nous bien conscience que la nouvelle alliance est non seulement le transfert de nos péchés sur Jésus, mais c'est aussi en même temps le transfert de notre mort éternelle que nous lui avons donnée? Oui ou non? Oui. Avons-nous conscience de cela? Alors, chers frères et sœurs, lorsque l'on considère toutes les tentatives de Dieu et tous les efforts et moyens qu'il a mis en œuvre pour atteindre le cœur de l'homme et pour lui offrir un salut, j'ai envie de vous demander quel retentissement que cela a dans votre cœur. Quel retentissement? Quelle réponse donner qui soit en adéquation avec ce nouveau contrat qu'il nous propose? Quelle réponse donner? Alors, lui, Dieu, vous savez, c'est Dieu qui s'est fait Jésus, n'est-ce pas? Il l'a ratifié, lui, la partie de son contrat, la partie qui lui est réservée. Il l'a ratifié avec le sang de son fils Jésus qu'il a envoyé pour nous délivrer son exemplaire du contrat. Alors, si nous acceptons les termes, nous devrions nous aussi le ratifier. Ratifier le sacrifice de Dieu, le sacrifice qu'il nous offre, nous ratifier ce contrat par le sacrifice de notre personne aussi. Êtes-vous d'accord avec ça? D'ailleurs, je vais vous mettre à l'aise. C'est l'unique réponse adéquate et la seule possibilité de faire partie de cette nouvelle alliance. Romains 12, 1 le dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part juste un culte raisonnable. » Je repose la question. Quelle réponse donner qui soit en adéquation avec ce nouveau contrat qu'il nous propose? Amen.